Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussaou Ponde.
Le retour de l'autorité de l'État en RDC est un des préalables au départ de la MONUSCO. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix l'a dit ce samedi à Kinshasa après une rencontre avec les agences du système des Nations Unies et celle avec le président de deux chambres du Parlement. Fermeture provisoire de la paroisse Saint-Armand de Kabanda en Gandanjika. La paroisse a été profanée cette semaine par les personnes non autrement identifiées. Notre invité, c'est Masikini Marindo, administrateur du territoire de Niangara dans la province du Haut-Ouélé. Sa juridiction fait face à la présence de plusieurs rebelles étrangers et des groupes armés locaux. Bonsoir à tous. Le retour de l'autorité de l'État en RDC est l'un des objectifs majeurs de la MONUSCO qui lui permettra de partir. Ces propos sont du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix en visite de travail en RDC au sortir d'une rencontre ce samedi avec les agences du système des Nations Unies après celle qu'il a eue avec les présidents de deux chambres du Parlement. Jean-Pierre Lacroix estime qu'il faut tirer les leçons des événements récemment survenus pour éviter de voir se reproduire ces incidents tragiques. Jean-Pierre Lacroix est au micro de Jean-Pierre et de Pierrot et la Magie.
Il est important de tirer les leçons de ce qui s'est passé, s'assurer que nous continuerons dans le système des Nations Unies à travailler dans la plus totale unité. C'était le message qui est ressorti de ma réunion avec les collègues des agences que je viens de rencontrer. Et puis parler avec les autorités congolaises, examiner les moyens par lesquels nous pourrons à la fois éviter de voir se reproduire ces incidents tragiques et surtout mieux travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'abord pour ce qui concerne la MONUSCO, le retour de l'autorité de l'État partout qui permettra à la MONUSCO de partir. Et nous souhaitons que les conditions soient réunies, et notamment le retour de l'autorité de l'État pour que la MONUSCO puisse avoir terminé sa mission le plus vite possible et laisser la place à d'autres formes de soutien international.
Au Nord Kivu, depuis le mois de mars, plus de 190 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été forcées à quitter leur village vers les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, rapporte un communiqué de l'UNICEF publié ce samedi. Trois mois après le début de la crise dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, rappelle le communiqué, les besoins humanitaires continuent d'augmenter. À la suite de multiples vagues de déplacements et au manque de possibilités de retour, les enfants sont extrêmement vulnérables et ont un besoin urgent d'assistance. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Grant Leti, s'est rendu dans le territoire de Rutshuru, précisément dans les localités de Rutshuru et Kalengera, où il a rencontré la communauté des déplacés. Les détails avec vous, Alain Irung.
Les familles déplacées et les familles d'accueil ont un besoin urgent de nourriture, d'articles ménagers, ainsi que d'assistance en matière de santé et d'eau, hygiène et assainissement. Des milliers d'enfants sont en danger et ont un accès très limité aux services sociaux de base nécessaires à leur survie dans cette crise qui risque de se poursuivre, car les familles hésitent à retourner dans leur village, a déclaré Grant Leti suite à sa mission à Rutshuru. Il ajoute, l'UNICEF a accentué ses activités pour renforcer sa réponse en faveur des familles déplacées, des populations hautes et des habitants qui vivent à côté de la zone d'affrontement. Néanmoins, d'une manière générale, compte tenu de l'amplitude de cette crise, l'assistance humanitaire tarde à arriver alors que les besoins continuent d'augmenter de façon alarmante. Faute d'assistance, certains déplacés sont obligés de rentrer dans leur village d'origine situé dans les zones très instables entre les positions des belligérants. Il est impératif de réagir maintenant afin de prévenir une augmentation importante des cas d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.
Selon le communiqué de l'UNICEF, ses partenaires fournissent une assistance dans les domaines de la protection de l'enfance, la nutrition, la vaccination, l'eau, l'hygiène et assainissement, la réponse au choléra, l'approvisionnement en articles ménagers essentiels ainsi que dans l'éducation. Les trois ministres de la délégation gouvernementale en provenance de Kinshasa ont entamé les rencontres avec les couches sociales de Goma. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui conduit la délégation, son collègue Modeste Moutinga, en charge de la solidarité gouvernementale, ainsi que Julien Paloukou de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, se sont entretenus à Serena Hôtel de Goma avec diverses couches sociales de la ville, dont la société civile et les mouvements citoyens. Pierrot Laminger.
Selon une publication partagée par la cellule de communication du gouvernorat, le ministre Julien Paloukou a partagé son expérience en matière de gestion des conflits et pacification. D'autres membres de la délégation ont insisté sur la mission leur confiée par le président de la République, celle des pacifications et solidarité avec les victimes des manifestations de la semaine. Interrogé par nos soins, le représentant de la nouvelle société civile de la RDC à Goma a déclaré lui que l'échéance de 2024 accordée par le gouvernement à la MONUSCO pour une sortie progressive et responsable est insupportable après 22 ans de présence. Et d'ajouter, si la mission veut son retrait progressif, qu'elle aille attendre ailleurs et pas au Nord Kivu.
Au Sud Kivu, un calme relatif a été observé hier vendredi dans quelques villages du groupement de Bassimouyaka Sud, dans les secteurs de Lulenge, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, où des affrontements ont opposé jeudi des miliciens Mai Mai, Bilosé, Bichambouke aux combattants Tuiraneo, Gumino. D'après le chef de ces secteurs, Samuel Kabindula, une nouvelle tension a été observée hier vendredi entre les belligérants sur le champ de bataille, dont les villages Irumba, Musika, Kijombo, Kijanda et les environs. Des sources concordantes parlent de 2 combattants tués et 6 autres blessés. Fiston Goma.
Ces combats ont commencé jeudi vers 15h et se sont poursuivis tard dans la soirée. Certaines sources locales à Minembwe affirment que les Turwaneo ont repoussé l'attaque de Mai Mai vers Kijombo. D'autres sources affirment que des combattants Turwaneo venus de Muriza et Kabingo ont attaqué le milicien Mai Mai avant d'être repoussés à Irumba, Antenne et Kijombo. Le bilan fait état de maisons incendiées, de femmes blessées et de chèvres emportées à Musika et dans d'autres villages. La population déplacée est retournée ce vendredi à Kijombo. Par ailleurs, la tension reste perceptible entre les belligérants. Des sources militaires de la 12e brigade de réaction rapide et FRDC contactées à Minembwe confirment ces combats sans autres détails. Ce vendredi, les FRDC ont mené des patrouilles de prospection dans les montagnes surplombant le village de Point Zéro dans le groupement Balala Nord, secteur de Mutambala, où la présence des Turwaneo a été observée. Dimanche dernier, d'autres combats ont eu lieu entre les Mai Mai Bilozebi Shambouke contre les Turwaneo au village Ngoma. D'Ouvira Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
Regain de la criminalité urbaine dans la ville de Lubumbashi, la population ne sait à quel sens se vouer. D'une part, les bandits innovent avec un nouveau mode opératoire en usant aussi des armes blanches en dehors des armes à feu. De l'autre, les services de sécurité montent des nouvelles stratégies pour les mettre hors d'état de nuire. Les détails avec Jean Gandou.
De nos jours, les plaintes sont quasi les mêmes à travers les différentes communes de la ville. Plusieurs résidences sont visitées par des bandits. Ils s'amènent généralement en groupe de 10, 20 voire 30 personnes avec des armes blanches, principalement les machettes, les barres de mine et autres. Ils entrent dans les parcelles, cassent les vitres, défoncent les portes ou encore détruisent les murs. Une fois à l'intérieur, ils réclament de l'argent, fouillent les coins et recoins de la maison, tabassent les occupants et s'en prennent parfois aux tout petits voire aux bébés. Ceux qui résistent sont blessés à la machette. Par moments, ils violent et tuent avant d'emporter les biens de valeur. Parmi les plus prisés, il y a les écrans plasma, les appareils électroménagers et autres. Pour sa part, la police multiplie les stratégies pour arriver à bout de ces malfrats. C'est ainsi que des patrouilles pédestres et motorisées sont organisées ainsi que des checkpoints. Par moments, ce sont les opérations de bouclage qui sont menées dans des quartiers bien ciblés. Déjà, quelques bandits sont tombés dans les filets de la police. Les biens volés ont été récupérés et quelques armes retrouvées. Le tout nouveau ministre provincial de l'Intérieur se dit déterminé à lutter contre cette criminalité urbaine. Pour cela, Eric Mutandala compte sur la collaboration de la population, appelée à dénoncer tous les suspects qui se cachent dans les différents quartiers. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Maniema, la société civile Force Vive dénonce l'insécurité qui règne présentement dans la province. Dans un entretien avec la presse hier vendredi, Stéphane Kamundala, président de cette structure citoyenne, demande que les présumés auteurs de cette insécurité arrêtée soient déférés devant la justice et qu'ils soient fixés sur leur sort. Par la même occasion, ce dernier dénonce encore un plan machiavélique qui, selon lui, se planifie par certaines personnes cherchant à venir déposer les armes et munitions dans les parcelles des individus déjà ciblés pour les salir, disant qu'ils seraient complices des bandits à main armée. Stéphane Kamundala est au micro de Florence Kiza.
venons de vivre depuis un temps un cycle d'insécurité qui entraîne la mort de plusieurs personnes. Nous sommes d'avis que les auteurs présumés jusque-là, qui sont attrapés ça et là, soient alors transmis en justice et qu'ils sachent leur sort le plus tôt possible. Mais nous dénonçons aussi les complots, si pas un plan machiavélique, qui commence à être nourri déjà dans les laboratoires, selon les informations à la possession de la société civile, qu'il y a des autorités ou des opérateurs politiques qui disent que on va commencer à prendre des hommes qui sont ciblés sur des listes déjà préétablies ou à venir déposer frauduleusement des armes et munitions dans leurs parcelles et on viendrait faire des perquisitions dans les parcelles de ces derniers et on y trouverait les armes et munitions jetées préalablement par les gens qui montent des coups et enfin on viendra récupérer les personnes pour les traduire en justice afin qu'ils soient humiliés. Une manière de museler toute personne qui serait peut-être de nature à dénoncer les choses qui ne marchent pas. Une telle attitude, un tel complot doit être dénoncé et la population doit le savoir parce que la vie des gens, la liberté des gens ne sont pas des choses à négocier, étant donné qu'elles sont consacrées par la Constitution.
Rendons-nous à présent dans la province de Lomami pour parler de la fermeture provisoire de la paroisse Saint-Armand de Kabanda en Gandanjika. Cette paroisse a été profanée cette semaine par les personnes non autrement identifiées. D'après les curés de la paroisse, ces inciviques ont emporté plusieurs objets sacrés, dont le Saint-Sacrement. Depuis cette profanation, les messes sont momentanément délocalisées jusqu'à nouvel ordre. Père Joseph Kasombo, curé de la paroisse Saint-Armand de Kabanda, s'exprime au micro des journaliste de la radio d'Itunga.
Les raisons qui font que l'église reste fermée, c'est d'abord cet acte de vandaliser, désacraliser le corps du Christ et le lieu même où est célébré l'Eucharistie. Pour nous, c'est plus grave parce qu'on a souillé le lieu. Tabernacle, c'est le siège de la présence réelle de Dieu parmi nous. Alors, quand on va vandaliser l'autel, dépouiller l'autel pour désacraliser ces lieux, le droit de l'église oblige qu'elle l'enferme avec l'ordre de la hiérarchie, que l'église reste fermée. On ne peut plus y prier. Pour que nous puissions reprendre la célébration dans l'église, premièrement, c'est l'évêque lui-même. En cas de son absence, il va déléguer quelqu'un pour venir célébrer la messe de repentance. Nous allons faire pénitence, nous allons demander pardon, et sincèrement pardon, et même longtemps demander pardon, que le Seigneur nous pardonne pour ses actes commis. À cette condition seulement, nous pouvons commencer à y prier.
Direction la province de Latchopo, où la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État a remis hier vendredi un lot de vivres et non-vivres au bénéfice des pensionnaires de la maison Saint-Laurent. Cette dernière est une structure des prêtres du Sacré-Cœur des Jésus qui héberge et encadre les enfants orphelins et ceux en rupture familiale. L'occasion a été donnée au directeur de la maison Saint-Laurent de présenter à ses hôtes les défis auxquels ils sont confrontés dans la prise en charge de ces enfants. Reportage Jacques Nkonkolé.
Après l'accueil et la présentation du centre Saint-Laurent à ses hôtes, le directeur, le père Teddy Ilondo, a stigmatisé les défis auxquels ils sont confrontés dans l'encadrement des enfants en rupture familiale.
Un autre grand défi, c'est la santé des enfants. Nous savons que les soins est aussi un droit de l'enfant. Vu le nombre d'enfants à prendre en charge, les factures des soins médicaux nous coûtent les yeux de la tête.
De son côté, la directrice adjointe de cabinet du chef de l'État a déclaré que le président Félix-Antoine Tshisekedi est conscient des difficultés que ses enfants éprouvent. À cet effet, Nicole Boitia a promis d'apporter une contribution à la solution, un tant soit peu, à leurs problèmes.
Nous allons, dans la mesure du possible, apporter notre petite contribution. Et nous vous aiderons en ce qui concerne l'accompagnement juridique, l'accompagnement socio-psychologique, pour que ces enfants retrouvent le chemin de l'école et qu'on puisse les réunifier avec leur famille pour leur développement.
Précisons que la donation de ces jours est constituée notamment des sacs de farine, de maïs, de riz, de haricots, de sucre, des boîtes de margarine, de lait, des tomates, de pilchards, des cartons de savon ainsi que des matelas. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le procès d'Abdoulaye Miskine et trois membres de la rébellion centrafricaine a commencé hier vendredi. Le chef et fondateur du groupe armé Front démocratique du peuple centrafricain et ses compagnons ont été interpellés en octobre 2019. Depuis, ils sont incarcérés au Tchad qui refuse de les extrader vers la Centrafrique. Ils sont accusés, entre autres, de création d'un mouvement insurrectionnel. Le pape François, 85 ans, diminué par des vives douleurs au genou, le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, a confié qu'il ne pourrait plus voyager au même rythme qu'auparavant, évoquant également la possibilité de se mettre de côté. « Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'auparavant. Je crois qu'à mon âge et avec ses limites, je dois m'éménager pour pouvoir servir l'Église ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant de son voyage au Canada dans la nuit d'hier vendredi à ce samedi.
L'invité.
Le territoire de Niangara, situé à 165 km d'Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, fait face à la présence de plusieurs rebelles étrangers et des groupes armés locaux. Certains parmi eux organisent une administration parallèle. D'autres procèdent à des kidnappings des civils et au pillage de biens des habitants, ce qui a un impact négatif sur les activités socio-économiques de la population. Radio Okapi reçoit Masikini Marindo, administrateur de ce territoire. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Monsieur le directeur du territoire de Niangara, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a l'ONG Invisible Children qui mène des activités ici sur le terrain. Vous, en tant qu'autorité, c'est pas comment, quelle appréciation vous avez à faire par rapport à ce qui mène comme activité sur le terrain?
Vous le savez bien, nous sommes le territoire de Niangara, c'est un territoire post-conflit après les événements malheureux qui ont endeuillé des milliers de familles par l'ordre Army Résistance, qu'on appelle LRA, et ça a endeuillé la population pendant des années, pendant des décennies. Alors, le territoire avait besoin d'un accompagnement. Parmi ceux qui ont été là pour nous accompagner, Invisible Children est venu à la rescousse. Elle a fait beaucoup de choses à Niangara dans la prise en charge de rescapés, de ceux qui sortaient. Elle a fait beaucoup de choses pour dans les domaines de communication, en maintenant, en subventionnant nos radios locales, évidemment. Et maintenant, elle est plus focalisée. En dehors de ça, il y a aussi les radiophonies. Elle a doté les territoires, parsemé les territoires ça et là avec des phonies pour que nous puissions avoir des informations de fin fond de notre territoire. Ça nous permet aussi, nous, acteurs sécuritaires, de nous outiller davantage pour prendre des dispositions afin de sécuriser notre population. En dehors de ça, elle est aussi très focalisée à Nambia, et une de chefferies de chefferie du territoire, c'est la chefferie Manziga, qui est pratiquement le ventre mou du territoire. Toutes les actions macabres se sont passées à Nambia. Vous verrez, il y a des groupements qui sont presque, je dirais, effacés à cause de ces affres de cœur.
Effacés à cause de qui?
Oui, je parlais de LRA.
Il y a combien de villages qui sont rasés par ces gens? Vous avez une idée?
Si vous passez ici, à côté ici, il y a un camp de concentration, un camp de déplacés qu'on appelle Kakaraka. Toute la population qui est là est venue de ces villages-là.
Quels sont ces villages-là qui sont visés?
Il y a le groupement Naoko, il y a Kido, et il y a un groupement qui m'échappe.
Il y a trois groupements qui sont vidés depuis quand?
Qui sont vidés, non, depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à ces jours.
Effacés.
Qui sont complètement effacés de la carte. La population est rentrée maintenant à la cité ici. Elle est en train d'évacuer ses occupations.
Ces gens vivent où?
On leur a donné un camp ici, et au centre-ville. Alors, ils ont trouvé le goût de rester plus ici en ville qu'au centre qu'en retournant chez eux. Mais il y a quand même quelques-uns qui commencent à rentrer timidement. Les chefs ont fait aussi un effort pour les appeler à revenir pour faire la terre, cultiver, faire ceci, cela, mais les uns commencent à rentrer.
Vous avez parlé de la chefferie de Manziga, là où il y a presque tous les groupes armés. On nous apprend qu'il y a les Seleka, il y a les Mbororo, on nous apprend qu'il y a les Ouda, il y a les Elera dans une partie. Qu'est-ce que vous faites justement pour que, enfin, cette zone est oubliée? C'est comme si ce n'était pas Congo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut faire attention parce qu'après Goma, après Nord-Kivu, Sud-Kivu, ça risque d'être le nord-ouest de la RDC.
Le territoire du Niangara, c'est vraiment là où on a enregistré un nombre important de Mbororo. Les Mbororo sont vraiment très nombreux ici.
On connaît le nombre, l'effectif, c'est combien?
Non, ce n'est pas connu. Nous n'avons pas eu à enregistrer le nombre et à les enregistrer. Nous connaissons tout simplement que ce sont le Tchadien et le Centrafricain. À cela s'ajoute le Sud-Soudanais, hein, qui sont des éleveurs nomades qui sont venus de cette façon-là. Ils sont nombreux ici et ils commettent beaucoup de bévues. Ils commettent beaucoup de... Ils sont pour la plupart des porteurs d'armes. Ça, c'est connu de tous. Alors, nous, à notre côté, nous faisons tout simplement de façon que la population ne puisse pas aussi attirer à... La cohabitation n'est pas aussi facile. Hein. Bon, on ne veut pas assez que la population puisse entrer directement en contact pour les affronter. Et c'est de cette façon que nous avons notre jeu. Et à cela, il y a... on constate aussi deux fois la présence des Séléka ici.
Masekine Marine, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Alain Rung Mouchige. Merci à vous tous de l'avoir suivi.